Chapitre 1, 15 juillet 1934. En arrivant devant le magasin général Taillefer, Madeleine se donna comme mission d'en être ressortie en 10 minutes. Malgré son inconfort, la femme savait qu'elle ne pouvait remettre plus longtemps cette visite. Il lui faudrait bien affronter la tempête un jour ou l'autre. « Si je passe directement au comptoir des tissus, j'aurai pas besoin de parler avec Gaston ou les autres clients. Sa fille Rosalie a toujours été plus gentille de toute manière. » Songea la jeune femme à la porte du commerce. Depuis la tragédie survenue un mois plus tôt, Madeleine s'était presque isolée dans sa maison. Elle ne descendait à la grave qu'au moment où les bateaux revenaient de la pêche. Tête baissée, elle lavait, vidait et coupait les morues aux côtés de son mari, sans dire un mot. Leur installation était dressée complètement à la gauche de la plage de Galais, ce qui lui permettait d'éviter les discussions avec les autres villageois. Madeleine ne s'était toujours pas aventurée sur le chemin principal de l'Anse à la Joie, encore moins dans le magasin, où les jaseux se plaisaient à épier les faits et gestes de tout un chacun. Tournant sur elle-même, la femme laissa son regard s'envoler vers le fleuve Saint-Laurent en contrebas, pour se donner de la force et du courage. Cette étendue d'eau à perte de vue l'apaisait généralement. Si elle restait trop longtemps loin de son fleuve, Madeleine avait l'impression de manquer d'air. Inspirant profondément, elle allongea son bras pour pousser la porte de bois. « Allez, ma fille !» murmura la villageoise pour elle-même. La tête basse, la femme de 26 ans pénétra dans le commerce en priant pour qu'il soit désert. Elle eut l'impression que la cloche de l'entrée résonnait tels les clairons d'une fanfare. Malgré tous ses espoirs, dès qu'elle mit les pieds dans le vaste magasin, Madeleine comprit que sa visite ne passerait pas inaperçue. En cette belle journée d'été, plusieurs villageois s'étaient retrouvés pour discuter un peu à l'abri du soleil. De chaque côté de l'allée principale étaient installés de larges comptoirs de bois, derrière lesquels se trouvait la marchandise. Sur les tablettes au mur, des pots, des boîtes et divers contenants étaient proprement rangés. Quelques hommes âgés et des femmes qui prenaient une pause de leur ouvrage fixèrent la nouvelle venue avec curiosité. « Bonjour !» tenta Madeleine en réalisant que son filet de voix ne faisait que montrer son malaise. Les voix se turent pendant quelques instants, puis elle entendit les murmures dirigés à son endroit. Dans le petit village de L'Anse à la Joie, les habitants se préoccupaient beaucoup de leurs voisins, pour le meilleur souvent, et parfois pour le pire. Dans le cas des jumelles Gérard, malgré la tristesse qui avait plombé les paroissiens quelques semaines auparavant, les avis étaient partagés. On comprenait la rage de Simone, on compatissait avec la détresse de Madeleine. Hésitant à s'avancer, la femme posa une main sur son ventre bombé, caché par sa robe de coton d'un bleu usé par les lavages répétés. Naïvement, elle voulait éviter que son premier enfant entende les commentaires des femmes de pêcheurs qui la regardaient avec pitié ou animosité. Madeleine imaginait sans peine les paroles échangées à voix basse. « Elle a du front de se présenter ici. Le pauvre petit Éloi a été enterré, ça fait même pas 3 semaines. Si j'étais Freddy, je la laisserais pas toute seule avec son nouveau bébé. Des plans pour qu'il meure, lui aussi. » Pourtant, personne n'aurait osé être aussi méchant. Mais quand les regards se posaient sur elle, Madeleine laissait son imagination s'emballer et sa culpabilité faisait le reste. La femme ne bougea pas du seuil du magasin et constata que la porte du bureau de Gaston Taillefer, tout au fond, était fermée. Il devait être en train de négocier avec un villageois ou vérifier ses registres. Derrière le comptoir de droite se trouvaient les deux garçons du marchand. Madeleine posa son regard noisette sur les larges lattes de bois qui formaient le recouvrement du sol, pour éviter tout contact visuel avec les autres clients. Girola Taillefer, le plus âgé des fils du commerçant, la dévisagea avec gêne. Sa tête châtaine se pencha sur un cahier de notes afin de donner l'impression à Madeleine d'être bien occupée. Devant le jeune homme de 20 ans trônait la caisse enregistreuse flambant neuve achetée au début du printemps. De plus en plus mal à l'aise, Madeleine se mordit l'intérieur de la bouche presque jusqu'au sang, en jetant un coup d'œil inquiet sur les femmes qui la dévisageaient. Après un long moment, elle réussit à se mouvoir lentement, et elle s'avança vers Girola, ses chaussures de cuir noir cognant contre le plancher. Elle regretta de ne pas avoir enfilé ses autres souliers, dont le talon était moins abîmé. Peut-être aurait-elle été plus discrète dans son déplacement. Posant ses mains fines sur le comptoir encombré, elle se racla la gorge et demanda d'un ton discret « J'aurais besoin de farine, Girola, puis... » Madeleine n'eut pas le temps de continuer que Géraldine Veillette, la meilleure amie de sa sœur Simone, s'approcha en la fixant durement. La femme enceinte de 8 mois recula d'un pas devant le regard furieux en croisant ses bras sur sa poitrine gonflée. « T'es pas trop gênée. Te montrer ici, m'a dit Poirier !» s'exclama d'une voix forte la grande blonde à la mâchoire carrée. « J'ai juste besoin de... » répéta celle-ci en tentant de contenir le tremblement de ses mains. « T'aurais pu envoyer ton mari ?» coupa l'autre. « Lui, il a rien fait, même s'il est pris avec les conséquences de tes actes. Tu vois bien que ta présence nous rend tous mal à l'aise. » La villageoise leva le bras vers les autres personnes qui évitaient de les regarder, gênées. Madeleine baissa la tête en laissant sa longue tresse brune glisser sur le devant de sa robe. Sa gorge serrée l'empêcha de répliquer, et elle jeta un regard affolé vers Girola et son frère William, qui venaient d'arriver près de lui. Les deux jeunes hommes hésitaient entre intervenir ou s'abreuver à la scène pour la raconter le soir au souper. Leur mère, Rita, ne pouvait plus rester longtemps au magasin depuis qu'elle avait contracté une maladie pulmonaire sévère, mais elle aimait bien que ses enfants lui racontent les derniers potins. Avant que le plus jeune de 19 ans n'ait le temps de suggérer à Géraldine de se tempérer un peu, celle-ci se retourna vers les autres clients et cracha son venin. « Bon, je vous laisse, l'air sent plus très bon par ici. On se reparle! » La femme à la chevelure frisée, autrefois une bonne camarade de Madeleine, s'éloigna dans une envolée de tissu beige. Retenant ses larmes derrière ses paupières baissées, Madeleine froissa sa liste dans sa main et la glissa au fond de la poche de sa robe. Elle devinait les reproches dans les regards qui la fixaient et sentit sa détermination fondre comme neige au soleil. Elle murmura « Je reviendrai une autre fois ». Puis elle tourna les talons et s'enfuit à toutes jambes par la porte laissée entrouverte par Géraldine. Sur le balcon de bois, la femme laissa échapper une plainte avant de s'apercevoir que son oncle maternel, Jean-Julien, était appuyé contre le chambranle de son petit commerce, un peu en retrait. La maisonnette aux murs grisâtres servait à la fois d'imprimerie et de studio de photographie. Située entre le magasin général et un vieil entrepôt, l'atelier de Jean-Julien était encombré de barils d'encre, de papier et de tampons de toutes sortes. L'homme d'une 50aine d'années fumait sa pipe, les jambes croisées et une main enfouie dans la poche de son pantalon court. Toujours élégant, il portait un chapeau et un veston marron, malgré la chaleur de juillet. « Ça va, Maddy ? » cria-t-il en levant le bras. « Oui, oui. » Refusant de s'attarder au centre du village, Madeleine fit un piètre sourire à son oncle et descendit les deux marches en vitesse. L'homme lissa sa moustache en cognant sa pipe contre le mur de son commerce. Il aurait bien voulu converser avec sa nièce, mais il ignorait comment apaiser sa peine. « Je sais vraiment pas quoi lui dire », pensa-t-il en haussant les épaules avant de retourner à l'intérieur de son studio. « J'imagine qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. » L'homme se sentait lâche, car il avait promis à sa sœur Carmel, la mère des jumelles, de prendre soin de sa progéniture après son décès. Mais il n'avait jamais prévu avoir à gérer une telle crise entre les jumelles. Depuis leur enfance, Madeleine et Simone se protégeaient l'une l'autre et partageaient leurs joies et leurs peines. Jean-Julien referma la porte derrière lui en soupirant profondément. Comment aurait-il pu anticiper que cette relation exploserait ainsi? C'est bien de valeur, toute cette histoire-là, murmura-t-il en enfilant une vieille chemise pour éviter de se tacher avec ses produits. Je les revois encore à 15 ans, assises sur le même bicycle, en train de descendre la côte en criant comme des folles. Simone avait toujours une idée farfelue pour s'amuser. Je me demande bien si leur complicité reviendra un jour. Un peu plus loin, Madeleine s'éloignait lentement du magasin. Elle tentait de ne pas laisser les larmes couler sur ses joues. La honte qu'elle ressentait à la suite de l'altercation survenue avec Géraldine lui donnait l'impression d'avoir du plomb dans les talons. Ses jambes lourdes n'avançaient pas assez vite à son goût. Elle passa sans s'arrêter devant le garage de Noé Lévesque. Trois hommes attendaient près des larges portes aux côtés de leur véhicule, et Madeleine fut soulagée de peu les connaître. Tout ce qu'elle voulait, c'était rejoindre sa maison à flanc de montagne le plus rapidement possible. Ne croiser personne d'autre jusqu'à la porte de chez elle. Maudite niaiseuse, j'aurais dû m'écouter aussi et rester chez nous. Cela faisait 2 jours qu'elle essayait de trouver le courage de se montrer au village. Son mari Freddy, à qui elle avait annoncé son projet, avait d'abord été hésitant, comme cela lui arrivait souvent depuis le tragique événement. « T'es certaine que c'est une bonne idée, Maddy? Tout d'un coup que tu rencontres Simone? » Il avait arrêté de se balancer sur la chaise berçante installée sur le balcon de leur maison de bois. Assise à ses côtés sur une chaise droite, Madeleine avait argumenté doucement. « Tu m'as dit toi-même que je devrais recommencer à descendre au village, puis là, j'ai pas bien le choix, j'ai besoin de farine et il reste plus de painkiller. » Freddy, un brin douillet, avait grimacé un peu. Souvent, lorsqu'il revenait à la maison après sa journée en mer, il éprouvait des douleurs musculaires et Madeleine lui frottait le dos avec cette huile camphrée. Rien de mieux pour engourdir son mal. Alors, il l'avait encouragée à se rendre au magasin général. Maintenant, en marchant sur le chemin de terre, la femme regrettait d'avoir osé sortir de chez elle après son dîner. Une chance que les hommes sont encore sur l'eau, songea-t-elle avec soulagement. Madeleine ne risquait pas non plus de rencontrer les villageois qui travaillaient aux vignaux des pêcheurs indépendants sur la plage. Pour ce qui était des terriens, engagés par la compagnie Robin, ils occupaient la partie la plus éloignée sur la Grave et montaient rarement par la côte Gaspé. Ces hommes, venus d'un peu partout dans la péninsule, retournaient à Percé une fois leur ouvrage terminé. Ennuyée par sa grossesse avancée, la femme se déplaçait avec la lenteur de la tortue. Honteuse, elle voulait aller panser ses plaies dans le confort de sa demeure. Quand Madeleine arriva à bout de souffle face à la petite église en haut de la côte du Sureau, le curé Mathieu, assis sur le parvis, la salua d'un signe de tête sec. « Même lui me pardonne pas », se dit-elle, la gorge serrée. Madeleine prit une pause pour se permettre de récupérer après la montée. Elle se tourna vers le fleuve qui brillait sous le soleil de cette mi-juillet. La vue sur le gigantesque rocher percé ne réussit pas à calmer son tourment. « De toute façon, moi-même, je me pardonnerai jamais. Je les comprends de tous me détester », murmura-t-elle en laissant enfin couler les larmes sur ses joues rougies par l'effort. Madeleine Poirier avait toujours été une jolie fille. Bien enrobée, elle avait des pommettes saillantes qui surplombaient un menton légèrement avancé. Tout comme sa jumelle Simone, la femme avait une longue chevelure brune frisée qu'elle portait tressée depuis l'enfance. Après la tragédie, sa sœur avait fait couper ses boucles à la hauteur de son menton pour s'assurer de ne plus ressembler autant à celle qui avait brisé sa vie. « Allez, du courage, Maddy !» souffla la femme enceinte en reprenant la marche sur le rensoriole. Vérifiant que personne ne venait dans sa direction, Madeleine déboutonna le haut de sa robe pour se rafraîchir un peu. Il ne lui restait qu'une dizaine de minutes avant d'arriver dans son antre. Pendant ce temps, dans la barge qu'il partageait avec son beau-frère Tom, le mari de Madeleine tirait sur sa cigarette en laissant ses yeux parcourir les eaux assez calmes. La situation tendue entre les deux hommes ne s'allégeait pas, et Freddy commençait à craindre que l'autre ne décide de changer de partenaire de pêche. Tom Laviolette était un cousin éloigné de la famille, et après son mariage avec Simone, ils s'étaient beaucoup rapprochés. Dans leurs rares moments de congé, ils allaient trapper dans les bois, et le samedi soir, ils profitaient d'un souper jumelant les deux familles pour prendre un petit verre et jouer aux cartes. Freddy faisait beaucoup rire son beau-frère, plus sérieux, jusqu'à l'accident. « C'est pas un accident », avait craché Tom lorsque Freddy lui avait offert ses condoléances. « C'est presque un meurtre. »« Un meurtre? Exagère pas quand même », avait balbutié le pauvre Freddy en sentant la sueur perler sur sa lèvre. Les hommes n'avaient plus reparlé de cette journée tragique. Si Freddy était un homme nonchalant et peu compliqué, Tom était tout à fait l'inverse. Déterminé à rapporter toujours plus de poissons, le mari de Simone, âgé de 28 ans, rêvait de pêcher l'un de ses flétans ou de ses esturgeons noirs de plus de 400 livres. Depuis leur adolescence, les beaux-frères partaient en mer avant le lever du soleil, dès le mois de mai. Ils passaient de longues heures sur l'eau pour n'en revenir qu'à la tombée de la nuit avec leur butin du jour. Le silence dans la barge n'était fracturé que par les cris des oiseaux marins qui tournaient au-dessus du bateau dans l'espoir de toucher une partie de la récolte de la pêche. Freddy observait les goélands, les seuls volatiles qu'il supportait dans son environnement. « Passe-moi donc le filet, je vais le vérifier. » marmonna Tom en pointant l'objet dans le fond du bateau. Trop heureux d'entendre l'autre homme s'adresser à lui, le second s'empressa de se pencher pour ramasser le filet sur le pontage. Le grand blond moustachu leva l'objet de corde devant lui et un gros trou le fit grimacer. « Une chance qu'on se concentre sur la morue. Pas moyen de pêcher du hareng ou du maquereau avec ça. T'étais pas censé réparer les filets la semaine passée? » Freddy avait omis de les rapporter chez lui en remettant la tâche à plus tard. Il tira sur sa cigarette avant de la lancer dans l'eau. Puis, il fit une moue désolée. « Ouais, mais Maddy filait pas et c'est quoi le rapport? » Freddy savait que le prénom de sa femme n'était pas le bienvenu dans leur conversation. Le visage fermé de Tom le lui rappela. Les traits burinés par le grand air de son beau-frère se durcirent encore plus lorsqu'il tenta de préciser sa pensée. « J'ai eu peur pour le bébé et ça m'est sorti de la tête. » Avant la mort d'Éloi, le fils de Tom et Simone, les deux hommes faisaient des plans pour le futur. Ils riaient en disant que leur party du temps des fêtes serait de plus en plus gros maintenant que Madeleine et Freddy commençaient eux aussi leur famille. À présent, c'était tout juste si Tom n'espérait pas que la jeune femme perde elle aussi son enfant. N'ayant pas l'intention de s'attarder sur les raisons pour lesquelles le filet n'était pas réparé, le blond prit le coffre de bois sous son banc et entreprit de se munir des outils nécessaires pour le raccommodage. Se tournant carrément pour faire dos à l'autre homme, il laissa ses yeux bleus glisser sur la mer, qu'il avait tant espéré sillonner avec son garçon Éloi. J'ai même pas eu le temps de l'amener sur les flots avec moi. » songea-t-il en ramandant le filet, la tête baissée. La peine au fond du cœur, il se demanda si un jour, il pourrait penser à son petit bonhomme sans avoir le goût de crier de rage devant les circonstances de sa mort. Par la fenêtre de sa maison blanche au volet gris, Simone observa sa sœur marcher sur le chemin de terre au loin. Elle remarqua la lourdeur de sa démarche et réalisa que la naissance de son neveu ou de sa nièce était imminente. Assise dans le vieux fauteuil donnant sur la fenêtre du salon, elle nourrissait son bébé d'un an, en ignorant le babillage de sa fille aînée, Philomène, qui dorlotait sa poupée sur la table de la cuisine. Comme chaque fois qu'elle apercevait Madeleine depuis la journée du 15 juin, son visage identique se crispa en un masque presque grossier. « J'imagine qu'en plus, ça va avoir un garçon », murmura-t-elle sur un ton rageur. Sa tête ondulée se baissa sur la bambine qui tirait sur son sein vide, et elle s'empressa de refermer sa robe malgré la plainte d'insatisfaction de Béatrice, qui se laissa glisser sur le sol, le poing dans la bouche. Philomène, une petite fille de 7 ans toujours pleine d'entrain, délaissa aussitôt son jeu pour s'approcher de sa mère. « On peut y aller maintenant, maman ?» Avant que Simone ne puisse lui répondre, Philomène s'élança vers la fenêtre ouverte et se mit à hurler. « Ma tante m'a dit! Ma tante... Veux-tu bien te taire? » cracha Simone en donnant une taloche sur la main de sa fille qui fronça les sourcils. La mère de famille se tourna pour faire dos à la fenêtre et ainsi s'assurer que sa sœur, si elle avait entendu la voix aiguë de Philomène, réalise qu'elle n'était plus la bienvenue. Mais Madeleine avait déjà dépassé l'église et les cris de sa nièce ne s'étaient pas rendus jusqu'à elle. Simone leva sa silhouette alourdie par les grossesses répétées des 7 dernières années. Outre Philomène, Éloi et Béatrice, la jeune femme avait fait 3 fausses couches. À la naissance de sa dernière, la mère de famille avait failli mourir et les médecins avaient dû l'opérer en catastrophe. Tom et Simone ne devaient donc plus avoir d'autres enfants. Les avaient avertis les spécialistes. « Mais au moins, j'ai mon gars. Ça fait que je m'arrange bien avec ça. » avait coutume de dire Tom avant la mort d'Éloi. « Il reste juste le curé Mathieu qui est dur de comprenure. J'ai hâte qu'il nous lâche avec l'importance de procréer peu importe les circonstances. C'est pas vrai qu'on va mettre la vie de Simone en danger. » Philomène prit sa sœur dans ses bras parce qu'elle pleurnichait, et leva son visage confus vers sa mère. « Pourquoi on voit plus ma tante Madeleine? Je comprends pas. »«
Parce que on est en chicane. »
La gamine secoua ses boucles blondes et fit un rictus qui aurait fait rire Simone si la situation avait été autre. «
Tu dis toujours qu'il faut pas rester en chicane. C'est à cause des lois? »
« Oui. »
Mais ma tante n'a pas fait exprès, maman. Elle a nagé longtemps pour le trouver, et moi, j'étais supposée le surveiller. »
Philomène mordit sa lèvre pour éviter de pleurer. Depuis la mort de son petit frère, la fillette se sentait coupable d'avoir insisté pour aller sur la plage ce jour-là. Elle s'approcha de Simone pour mettre sa main sur son bras et poursuivit.
« Je te jure, maman, qu'on a essayé très fort de le sauver. »
Déterminée à ne pas se laisser entraîner dans une conversation qui risquerait de la chambouler, Simone fit un signe de la main et répondit
« Laisse faire ça. C'est des affaires de grandes personnes. Toi, t'as rien à voir dans ça. Bon, j'ai du linge à étendre. Viens m'aider à place. »
Philomène soupira et suivit sa mère, en se disant qu'elle détestait lorsque les adultes lui répondaient ainsi. Quand Éloi était mort, elle était restée avec son arrière-grand-mère Palmyre pendant que les adultes effectuaient des recherches. Son père et sa mère ne lui avaient jamais reparlé de la noyade de son frère. Pourtant, Philomène avait des centaines de questions sans réponse. Est-ce qu'Éloi avait eu mal? Qu'est-ce que ça fait quand on ne peut plus respirer? Pourquoi il n'avait pas essayé de flotter? Depuis ce jour, ses parents lui avaient défendu d'aller rendre visite à sa tante Madeleine, dont la maison était à proximité. Au magasin Taillefer, tout le monde s'était regroupé autour de sa maman et elle, lors de leur visite suivant les funérailles de son petit frère. Même si Simone avait tenté d'éviter le sujet, Philomène avait bien entendu certaines villageoises la plaindre d'avoir une sœur aussi inconsciente. C'est son père Tom qui lui avait expliqué ensuite ce que voulait dire ce grand mot. Il avait d'abord souri tristement, puis il s'était fâché quand Philomène avait précisé
« C'est Géraldine qui a dit que ma tante Maddie était inconsistante. »
Aussitôt, Tom avait mis fin à la discussion et entrepris de fendre du bois à l'arrière de leur maison. La fillette l'avait suivi en demandant si le lendemain, elle pourrait accompagner son grand-père Horace sur la plage pour accueillir les pêcheurs, comme avant.
« Non, tu vas rester ici avec ta mère. »
avait sèchement répondu Tom.
« Mais papa, assez !»
Le père de famille n'avait pas le temps de surveiller sa fille sur le bord de la mer à son retour de la pêche. Comme les autres hommes, Tom devait s'occuper du tranchage des poissons dès qu'il mettait les pieds hors de son bateau. Quand Éloi était vivant, le frère et la sœur passaient beaucoup de temps sur la grave avec leur mère pour aider à l'habillage de la morue. Les enfants du village, même petits, accomplissaient des corvées simples pour prêter main forte à leurs parents. Mais voilà une autre habitude qui avait disparu.
« Je ne veux plus que tu viennes m'aider, Simone. » l'avait avisé son époux le lendemain des funérailles. « Je ne veux pas que tu sois obligée de voir ta sœur. »
La mère éplorée avait acquiescé, ne se sentant pas la force de se trouver au même endroit que sa jumelle. Auparavant, les installations des deux familles se trouvaient côte à côte sur la grave, comprenant vigneaux, tables de découpe et tout le matériel nécessaire pour leur ouvrage. Elle partageait même une cabane rustique que les beaux-frères avaient construite l'automne précédent. Celle-ci servait au lavage et au salage des morues.
« Mais quand elle va avoir eu son petit, je vais y retourner », avait précisé Simone. « En attendant, tu penses que ton père va continuer de te donner un coup de main ?»
Tom avait opiné de la tête. Depuis la mort de sa mère, son père Horace vivait avec eux. Il passait toutes ses journées au quai et autour des vigneaux. Quand les pêcheurs rentraient après leur journée sur l'eau, les aînés s'avançaient pour les épauler dans les diverses tâches.
Il le fait déjà, et il va juste être content de se savoir encore plus utile. C'est certain que son dos le fait souffrir, mais il faudrait que je l'attache pour l'empêcher de travailler. Si j'ai besoin de plus de bras, je demanderai au gars de mon cousin Joseph.
Quand Philomène demanda à sa mère, une fois les vêtements accrochés à la corde sur le côté de la maison, si elle pouvait aller rejoindre son amie Marie-Joseph en bas de la côte, Simone s'avança pour s'assurer que la voie était libre avant de répondre.
« C'est bien correct. Mais tu vas là directement, tu m'as bien comprise, et que je te vois pas t'approcher de la mer ou de la maison bleue. »
Philomène hocha la tête et fila sur ses petites jambes d'enfant. Simone la suivit des yeux, une boule de rage au fond du cœur.
Mon petit bonhomme aussi aurait dû courir sur le rang au lieu d'être 6 pieds sous terre.